Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Afghanistan. Les élections législatives de ce samedi, les premières depuis 2010, constituaient en elles-mêmes un défi logistique d'importance. Plus de 2500 candidats pour 249 sièges de la Chambre basse à pourvoir, un scrutin qui avait 3 années de retard, considéré comme une répétition générale avant la présidentielle d'avril 2019. Au-delà de la question de savoir si le résultat sera crédible, étant donné la violence et les préparatifs chaotiques qui ont prévalu. Le regard sur ce pays s'impose alors que l'actualité autour de l'Afghanistan avait tendance à retomber dans l'indifférence générale 17 ans après le début de la guerre initiée par les États-Unis suite aux attentats du 11 septembre 2001. Nos invités par téléphone, Toby Lenzer, qui est représentant spécial et coordinateur humanitaire pour les Nations Unies en Afghanistan. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et chercheur à Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Weber, écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre, auteur de plusieurs ouvrages dont La Confession de Massoud, paru chez Flammarion, et Le Faucon Afghan, voyage au pays des talibans, chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
L'Afghanistan, pays en guerre depuis plusieurs décennies, on parle d'un record de civils tués pour cette année 2018. La violence fait que des ONG pourtant familières des terrains de guerre ont réduit leurs effectifs sur place, c'est notamment le cas du CSER. La société civile dénonce de plus en plus l'incapacité du gouvernement à protéger le pays. Il est vrai que la population paye dramatiquement cher une guerre qui n'est pas la sienne. Toby Lenzer, quel est le climat en cette fin d'année en Afghanistan, marqué donc par l'élection législative d'aujourd'hui dans le pays, la guerre en Afghanistan qui est en voie de dépasser les 20 000 morts en 2018?
Écoutez, c'est pas seulement la guerre, c'est aussi le fait que depuis 40 ans, l'Afghanistan est un pays qui a été vraiment touché par plusieurs choses. C'est tout d'abord la pauvreté, et ensuite la guerre, et ensuite cette année, par exemple, la sécheresse. Donc le climat même en Afghanistan est vraiment très très dur pour la population, très dur pour les femmes en particulier. Et je pense que cet événement, les élections, que ce soit les élections législatives ou les élections présidentielles en avril, ça donne un espoir aux personnes en Afghanistan que peut-être le futur pourra être un peu mieux.
Un commentaire, Jean-Luc Racine, Olivier Weber, sur ce que vient de dire Toby Lenzer.
Oui, moi, je crois que c'est important de ne pas considérer que ces élections, vu les difficultés d'organisation, vu les menaces, vu leur retard considérable, 2 ans et demi, ne sont pas véritablement importantes. Bien sûr que l'opposition au président Ashraf Ghani a déjà dit que la crédibilité de ces élections serait engagée. Mais comme il vient d'être rappelé, c'est important quand même. Ce sont les 3e élections générales depuis l'après 2001. Et même si personne ne peut se faire de grandes illusions sur ce que les configurations politiques pourront donner, le simple fait de pouvoir, dans une certaine mesure, et ça sera évidemment, une des grandes interrogations, mais de donner la parole aux Afghans et aux Afghanes, c'est quand même quelque chose d'important, encore une fois, quelles que soient les limites de l'exercice.
Olivier Weber.
Je crois que c'est une grande fenêtre d'espérance, en fait, pour la population. La grande majorité des 34 millions d'Afghans n'ont connu que la guerre, évidemment qu'il y a plus de 40 ans, comme le rappelait le représentant des Nations Unies. Mais en tout cas, c'est aussi la faculté pour des districts oubliés de se faire entendre. C'est la faculté pour des femmes, surtout. Il y en a plus de 400 qui se présentent sur les 2500 candidats aux élections parlementaires. C'est une occasion pour différentes ethnies, aussi minoritaires ou non, de se faire entendre. Donc c'est important, même s'il y a la corruption, même s'il y a la pauvreté, évidemment, et cette habituation à la guerre, de facto, contre laquelle la population ne peut rien faire.
Alors justement, 2500 candidats pour 249 postes, Toby Lenzer, il est vrai que on s'interroge ne serait-ce que sur les candidats qui se présentaient pour l'élection qui s'est donc tenue aujourd'hui. Alors ce qu'on dit beaucoup, c'est que être député en Afghanistan, ça comporte beaucoup d'avantages. Enfin, c'est l'ONG Transparency International qui classe l'Afghanistan parmi les pays les plus corrompus au monde, au 177e rang sur 180. L'emploi votre député, c'est un emploi garanti pendant 5 ans et un salaire mensuel de 200 000 afghani, soit plus de 2300 euros, environ 15 fois le salaire moyen dans le pays, tout ça comprenant bien sûr les dépenses pour des véhicules blindés et des gardes du corps. D'aucuns estiment que les privilèges accordés aux politiciens sont finalement une malédiction pour le pays. Toby Lenzer, un commentaire peut-être là-dessus ?
Effectivement, je trouve que les législatives donnent l'opportunité à Afghanistan de se renouveler dans un certain sens. Il y a parmi la population le sentiment que le Parlement doit se renouveler et pour ça, je pense, l'enregistrement par les votateurs a été beaucoup plus grand de ce qu'on attendait en fait.
Jean-Luc Racine.
Pour reprendre votre question précédente, est-ce que finalement les députés sont des privilégiés? La question c'est est-ce qu'ils sont des privilégiés avant d'être députés? C'est-à-dire est-ce qu'on peut devenir député parce qu'on a déjà du pouvoir, qu'on a déjà des réseaux? Ou bien est-ce que le scrutin permet à certaines personnalités de se faire reconnaître? Mais au-delà de ça, ce qui me paraît significatif dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est de rappeler que la constitution afghane mise en place après 2001, en 2004 si je ne me trompe, a véritablement construit un régime extrêmement présidentiel. C'est-à-dire que le Parlement existe, il fait entendre sa voix dans les médias pakistanais, on entend tel ou tel dire ce qu'il pense et critiquer ceci ou cela. Mais la particularité du système, c'est que il n'y a pas de groupe parlementaire au sein du Parlement afghan. C'est-à-dire que sur les 2500 candidats, je crois que c'est à peu près 10% qui affichaient une affiliation politique spécifique. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas proches de tel ou tel parti, mais il n'y a pas de groupe parlementaire tel qu'on les entend dans une démocratie parlementaire, ce qui évidemment affaiblit le poids réel des députés, au-delà de ce que peut être leur position privilégiée ou pas.
Olivier Weber.
Je crois que par rapport à la question qui a été posée, c'est évidemment mettre dans l'essence, en fait, mettre les députés au-dessus de la possibilité de la corruption. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Évidemment, il y a des députés soit qui étaient déjà corrompus, soit qu'ils deviennent en étant députés. Mais en tout cas, il y a cette possibilité aussi de s'extraire, en fait, de tout ce qui est corruption sur le terrain. Alors, il y a évidemment le côté contre-pouvoir de l'Assemblée, même si c'est corrélé au fait que, comme le disait Jean-Luc Racine, il y a beaucoup plus d'indépendants que de membres du Parlement affiliés à des partis. Donc on a 80-85% au moins de candidats indépendants. Il n'empêche que la corruption s'exerce aussi au niveau des walis, donc des gouverneurs, et les députés peuvent contrecarrer cela, et puis deuxièmement au niveau du pouvoir exécutif. Voilà, donc la question des privilèges des députés est marginale, je dirais, parce qu'il ne s'agit que de 249 députés au total. Après, il faut examiner la question de la corruption dans son ensemble. Ça, c'est un autre chantier. Et évidemment, il ne faudra pas oublier, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la question de la drogue également, qui impacte totalement, non seulement l'économie, mais dans un sens aussi normatif, la croissance, qui est une croissance assez importante. Elle a été chiffrée par la Banque mondiale, ça vaut ce que ça vaut, ce sont des estimations à 4% par an. Ce n'est expliqué que par le fait que vous avez à peu près un tiers du PNB afghan qui est issu donc de la culture de l'opium, qui permet donc par ses dérivés de produire de l'héroïne.
Alors justement, Toby Lenzer, on va profiter de votre présence parce que malheureusement vous ne pourrez pas être avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Le contexte dans lequel cette élection se déroulait, le contexte économique, le contexte social, on peut juste rappeler que en Afghanistan, on retourne beaucoup de réfugiés, de personnes qui avaient trouvé refuge à la fois en Iran, au Pakistan, en Europe, avec ces accords nouveaux qui ont été signés en 2016. Des déplacés également internes à l'Afghanistan. Alors, on parle d'une population afghane qui est épuisée, mais résistante. Quel regard portez-vous sur la situation économico-sociale aujourd'hui en Afghanistan ?
Écoutez, effectivement, c'est une population résistante. On a vu depuis 2001 qu'il y a 8 millions de personnes qui sont rentrées chez eux. Même cette année, on a 600 000 personnes qui sont rentrées de l'Iran. Donc, dans des circonstances qui sont pas du tout favorables, je dirais, il y a la violence, il y a, comme je disais avant, la pauvreté aiguë et une sécheresse très sévère qui frappe tout le secteur du nord et de l'ouest du pays. Cela dit, parmi la population, une résistance à survivre incroyable. J'hésite de comparer les situations dans des autres pays, mais Afghanistan passe par une époque vraiment très, très, très difficile actuellement. Donc, ces élections, comme je disais, sont une opportunité pour renouveler, si je peux le dire, l'ambiance un peu. Et c'est pour ça que l'enregistrement de votateurs a été beaucoup plus haut de ce qu'on attendait. Maintenant, oui, il y a une croissance économique cette année. Lamentablement, la croissance économique est plus petite que la croissance de la population. Donc, on a une pauvreté qui nous dit 54% en fait de la population vit avec moins d'un euro par jour. Et comme mon collègue vient de nous dire, la situation de l'économie illicite, la drogue, la narcotique est aussi un facteur très important dans ce contexte. Donc voilà, je pense que parmi la population, il y a un espoir pour un futur en paix, avec un parlement qui marche, avec un gouvernement qui laisse aux personnes, aux crédits, des situations qui sont vraiment plus favorables pour d'abord survivre et ensuite vivre en paix et dans un pays qui a une croissance économique beaucoup plus rapide. Ce que est possible pour l'Afghanistan avec toutes les ressources qui existent, avec les nouvelles relations économiques, par exemple, avec Kazakhstan et avec les pays de l'Asie centrale, et pas seulement avec l'Inde ou avec le Pakistan, il y a des opportunités économiques et, à mon avis, il faut que la communauté internationale continue à faire des investissements dans le domaine du commerce et dans le domaine du développement, même si ce conflit continue. Et même si parmi quelques-uns et quelques autres, parmi la communauté internationale, peut-être on aimerait bien ou on préférait d'ignorer un peu, si je peux le dire comme ça, ce qui se passe en Afghanistan.
Ignorer, vous voulez dire ignorer l'Afghanistan lui-même? Comment comprendre ce que vous venez de dire, Toby Lenzer?
Oui, je pense que... Comment est-ce que je peux vous expliquer? Sur le terrain, en Afghanistan, on a parfois l'impression que la communauté internationale se dit « Oulala, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on essaie de travailler avec les Afghans et de remettre les choses en marche et on est fatigué de ça ». Moi, je dirais qu'actuellement, il y a vraiment des nouvelles possibilités pour la paix. Il faut tout faire pour essayer de trouver un futur stable pour l'Afghanistan et pour toute la région. Et dans ce sens, mon appel à la communauté internationale, c'est de continuer avec son engagement en Afghanistan, que ce soit pour trouver la paix, pour le développement et le commerce qui est vraiment faisable, ou que ce soit au court terme pour l'aide humanitaire qui est vraiment très nécessaire actuellement.
Alors, il est vrai que, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Toby Lenzer, il y a cette réunion en novembre prochain à Genève des bailleurs de fonds sur la question afghane. Et il était important que ces élections législatives se tiennent comme un point positif sur le plan politique et une volonté que les choses se déroulent le plus normalement possible, entre guillemets. Jean-Luc Racine, Olivier Weber, commentaire.
Oui, je pense que s'agissant de la communauté internationale, il est vrai qu'il peut y avoir une certaine lassitude chez certains pays, et peut-être en particulier chez les pays occidentaux, mais en revanche, on en parlera peut-être, on voit bien que, sans reprendre la vieille métaphore du grand jeu, mais enfin, on voit bien que les Russes, les Chinois, les Iraniens, et aujourd'hui les Américains, sont très loin de mettre de côté l'Afghanistan, et qu'au contraire, ils jouent un jeu complexe, tous au nom de la nécessité d'un retour à la paix qui est censé venir d'un accord entre les talibans et le gouvernement de Kaboul. Reste que la communauté internationale, après le retrait de la plus grande part des forces de l'OTAN décidé par le président Obama et qui a été acté en décembre 2014, la communauté internationale avait renouvelé son soutien, à la fois militaire sous d'autres formes et son soutien économico-financier, mais en ajoutant des conditionnalités, entre autres d'ailleurs la lutte contre la corruption. Donc, pour le président Ashraf Ghani et son administration, une des échéances était le sommet de l'OTAN à Bruxelles il y a quelques jours, et puis le sommet de Genève. C'est évidemment très important puisque, entre autres, les forces armées afghanes sont pour l'essentiel financées par la communauté internationale. Donc, bien sûr qu'il y a un grand potentiel, entre autres minier, dans le pays, mais aussi agricole. La vraie question est de savoir, et c'est l'espèce de dilemme dont on ne se sort pas depuis des décennies, est-ce que le développement peut apporter la paix, ou est-ce qu'il faut d'abord la paix pour avoir le développement ?
Olivier Weber.
Alors les élections, quand je parlais tout à l'heure de ce besoin de paix, cette aspiration à l'espérance de la population, les élections sont une condition non pas sine qua non, mais nécessaire et non suffisante, on va dire, du processus de paix. C'est indispensable, c'est une fenêtre d'ouverture, c'est une fenêtre d'aspiration réelle, pragmatique, à l'exercice de la démocratie à Kaboul, mais aussi en dehors du Parlement, donc dans les circonscriptions des députés qui vont être élus. En même temps, on est dans un contexte extrêmement compliqué, parce que il y a évidemment ces intérêts dont parlait Jean-Luc à l'instant, des grandes puissances, et en même temps une sorte de compassion fatigue, comme disaient les Anglais, l'usure de la pitié, parce que la guerre dure depuis 40 ans. Après les attentats de 2001, il y a eu ces interventions occidentales de l'OTAN et américaine en particulier, qui se sont traduites par le départ massif des troupes en 2014. Il n'empêche qu'il y a maintenant à peu près 14 000 conseillers forces spéciales de l'OTAN, enfin, en fait, on va dire américaines, décidées, enfin, montées en puissance par le président Trump. Donc, si ces troupes spéciales et ces forces de conseillers quittent l'Afghanistan, le pouvoir d'Ashraf Ghani, mais les institutions afghanes en général, s'effondrent également. Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi une sorte de marginalisation du conflit afghan qui devient presque un conflit peut-être pas oublié mais effacé. On a 5 grands points de fixation dans cette région du monde. Enfin, on peut démarrer même à partir de la Libye jusqu'en Afghanistan, en passant par la Syrie, l'Irak et le Yémen. Donc quand vous avez des attentats à Kaboul, on en parle très peu. Je dirais que ça a moins d'impact sur l'intérêt des grandes puissances pour des raisons économiques et minières en particulier, de la part de la Chine, mais pas que en particulier, mais aussi des Russes au nord, que sur la capacité des institutions internationales à financer des campagnes de développement, d'accompagnement, de soutien économique. Donc on risque d'avoir un conflit plutôt centré sur les forces politiques et militaires afghanes en général, plutôt que sur l'extérieur.
Toby Lenzer, je vous laisse les derniers mots de cette première partie. Je rappelle que vous devez nous quitter. On a bien entendu votre message lancé à la communauté internationale pour ne pas lâcher l'Afghanistan. Quelques mots pour conclure.
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire. Il ne faut pas oublier ou laisser à côté l'Afghanistan, parce que du point de vue géographique aussi, c'est vraiment très stratégique pour les uns et les autres, et surtout laissons aux Afghans la possibilité de prendre contrôle un peu plus de leur situation. Dans ce sens, je pense que ces élections législatives sont vraiment une opportunité pour un futur meilleur, et espérons bien que la participation des femmes dans ce processus est plus grande qu'il était avant, pour permettre que toute la population en Afghanistan, en particulier les femmes, puisse participer dans tous les domaines, que ce soit social, économique et politique, de son pays. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Je m'excuse pour mon français, j'ai souffert un peu là, de temps en temps, mais...
Je comprends, avec le décalage...
Espérons bien que vous avez bien compris.
Oui, merci beaucoup Toby Lenzer, vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes le représentant spécial et coordinateur humanitaire pour les Nations Unies en Afghanistan. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Jean-Luc Racine et Olivier Weber, après le journal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Afghanistan. Nous retrouvons nos invités, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et chercheur à Asia Centre, et Olivier Weber, écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre, auteur de plusieurs ouvrages dont La Confession de Massoud, paru chez Flammarion, et Le Faucon Afghan, voyage au pays des talibans chez Robert Laffont. Toby Lenzer, qui est le représentant spécial et coordinateur humanitaire pour les Nations Unies en Afghanistan, qui a dû nous quitter au terme de la première partie, concluait la première partie de l'émission en parlant de l'Afghanistan comme d'un pays stratégique. Alors on va parler un petit peu de ce qui se passe autour des négociations. Il y a eu une rencontre il y a quelques jours à Doha entre le diplomate américain chargé de diriger les efforts de paix en Afghanistan, Zaimad Khalilzad, et les représentants des talibans. C'était les deuxièmes négociations depuis que la Maison-Blanche a relancé les pourparlers directs avec les talibans. Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce que l'on peut dire de la stratégie aujourd'hui des États-Unis et des talibans?
La stratégie des talibans telle qu'elle est affichée, et ici on peut signaler qu'on n'est plus dans l'an 1 du règne des talibans. Aujourd'hui, les talibans ont une cellule média particulièrement active et efficace. Donc le discours taliban consiste à dire le régime de Kaboul, c'est un régime de marionnettes, on ne discute pas avec eux. On discute avec les Américains. Les Américains qui sont en contact avec les talibans de longue date, qui ont contribué à ce que le bureau politique, comme on l'appelle, c'est-à-dire la représentation talibane établie au Qatar en 2013, si je ne me trompe, et qui a fermé après à la demande de Karzai, enfin les talibans sont toujours présents au Qatar. Finalement, ça a été relancé dans un contexte que moi j'interprète comme étant un peu aussi une compétition entre puissances. Il faut se rappeler, en étant très bref, que après le départ de l'essentiel des troupes américaines, donc fin 2014, la situation sécuritaire s'est aggravée en 2015. Et en 2015, c'est là aussi qu'on a eu confirmation que l'État islamique crée une antenne dite État islamique du Khorasan, le vieux nom historique de l'Afghanistan et de ses marges, une présence de Daesh qui était pour l'essentiel au départ, pour beaucoup, des talibans pakistanais qui avaient été chassés par l'armée pakistanaise des zones tribales bordières de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, c'était des ex-talibans pakistanais qui ont été à la tête de l'État islamique Khorasan. Plusieurs parce qu'ils ont été tous abattus par des drones américains. Mais cette présence de Daesh, qu'on évalue aujourd'hui, c'est évidemment très difficile, mais de quelques milliers d'hommes, ça inquiète au premier chef et les Russes, qui considèrent évidemment que l'Asie centrale, c'est leur arrière-cour, et les Chinois, toujours soucieux de voir si les Ouïghours du Xinjiang vont trouver des appuis dans les zones troublées. Ça explique qu'il y ait eu des initiatives, entre autres de Moscou, en 2016 et 2017, avec les Chinois, les Pakistanais, puis les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Iraniens, les Afghans, qui avaient été oubliés lors de la première rencontre de Moscou. Dans ce contexte, on a l'impression que les Américains, finalement, d'une part, et ça c'est très officiel, ont reconnu qu'il n'y aura pas de victoire militaire pure et dure. Qu'il s'agit en fait de contraindre les talibans au dialogue et après à la négociation. C'est dans ce contexte donc qu'il y a eu la visite de la sous-secrétaire d'État Alice Wells en juillet dernier au Qatar, et puis Zalmay Khalilzad, lui-même d'origine afghane, grand diplomate américain, représentant spécial du président pour une politique de paix en Afghanistan. Voilà le contexte dans lequel la rencontre a eu lieu. Ce qu'on sait, c'est que les talibans ont demandé, semble-t-il, aux Américains de se retirer. Et Washington ne fait pas de commentaires, à ma connaissance, sur ce qui a été vraiment... Mais ça n'est qu'un premier contact.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est Olivier Weber, précisément, il y a actuellement 14 000 soldats américains. C'est 4 000 de plus que l'an dernier. On a l'impression que les Américains renforcent leurs troupes, ne serait-ce que pour avoir davantage à négocier avec les talibans.
C'est d'abord marquer des points sur l'échiquier international par rapport à cette montée des puissances anciennement impériales, ou en tout cas expansionnistes, russes en particulier, et puis d'un autre côté la Chine. Donc les Américains veulent avoir leur mot à dire. Alors c'est compliqué parce qu'ils veulent mener une politique militaire et de négociation de paix à moindre coût. Les Américains essaient de mener leur barque. C'est compliqué parce que là, ils répondent à quoi ? Par rapport à votre question, à la ligne dure des talibans. Mmh. Les talibans disent, on négocie. D'abord, on oublie totalement Ashraf Ghani, qui est considéré comme le représentant d'un pouvoir illégitime, le pouvoir afghan. On négocie, finalement, avec le diable, notre pire ennemi, qui sont les Américains. Mais ils mettent comme condition préalable le départ des troupes étrangères, ce que finalement ont avalisé de facto les représentants de l'administration américaine et surtout Zalmay Khalilzad, donc l'émissaire pour la paix du président Trump. Alors Trump essaye avec son administration de manœuvrer, il monte un peu en puissance, il est passé de 8400 hommes à 14000 en quelques mois sur le terrain. On est évidemment loin du plus fort du contingent au temps d'Obama, 100 000 à 150 000 hommes, mais on sait très bien, je le disais tout à l'heure, que si c'est forces étrangères, si ses conseillers et forces spéciales se retirent, le pouvoir afghan s'effondrerait pratiquement du jour au lendemain. Et en même temps, c'est un camouflet pour le président afghan. Parce que finalement, ce que fait Khalilzad, le représentant américain qui est l'ancien ambassadeur à Kaboul, c'est de faire des navettes pour dire aussi à Kaboul, au président afghan, Ashraf Ghani, voilà ce qu'ont demandé les talibans. Ce qu'il faut dire également, c'est que derrière ces représentants à Doha, au Qatar, des talibans et dans d'autres parties du monde, il y a Tourabi. Alors Tourabi, c'est l'ancien ministre de la Justice des talibans qui est monté en puissance à un moment parce qu'il était le ministre de la répression du vice et de la promotion de la vertu. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment la puissance incarnante de la ligne dure et extrêmement radicale, on va dire, des talibans. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que sur le terrain, il y a déjà de facto une sorte d'osmose ou de pouvoir dual sur le terrain, dans certains districts, entre les représentants du pouvoir afghan, donc d'Ashraf Ghani, et puis donc les talibans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est une manœuvre d'intimidation de la part des talibans qui font des pressions sur ces élus, sur ses représentants, mais aussi sur leur famille. Donc, il y a cette double face entre ce qui se passe réellement sur le terrain dans certaines provinces, donc finalement une incarnation du pouvoir de facto, au moins partiel de la part des talibans, et puis deuxièmement, cette montée en puissance aux négociations. Les Américains se disent, on va essayer de tirer notre épingle du jeu, il faut qu'on soit présent face aux Russes et aux Chinois, et deuxièmement, on va pas mettre en avant, évidemment, les talibans, mais il peut y avoir une sorte de retour de boomerang avec un dialogue direct, pourquoi pas, entre certains représentants talibans qui n'ont pas de sang sur les mains, en tout cas c'est l'expression un peu minimaliste du pouvoir afghan, et donc les représentants d'Ashraf Ghani jusqu'à l'élection présidentielle de l'an prochain 2019. Et c'est pour ça que l'élection actuellement parlementaire est un test au niveau de la fraude, au niveau de la crédibilité surtout du président afghan s'il se représente l'an prochain.
Alors, plusieurs choses en complément. Quelle place pour Daesh dans ce que vous venez de décrire, Olivier Weber? Et ce que je voudrais aussi, c'est préciser que le représentant spécial américain pour la réconciliation afghane, Zalmay Khalilzad, pardon pour la prononciation, il a aussi, après cette rencontre avec les talibans à Doha, fait une tournée au Pakistan, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Alors, comme tout est lié dans la région aussi, on voit l'Iran accroître son aide aux talibans. Alors, ça manque pas de sel, pardon pour l'expression un peu triviale. Téhéran, qui était l'allié historique de Kaboul, jadis ennemi des talibans, joue depuis quelques années un double jeu de plus en plus marqué. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran, aujourd'hui, a d'autant plus d'influence qu'elle cherche à compenser la question de l'accord sur le nucléaire iranien, le retrait américain? Enfin voilà, quel est le jeu de Téhéran et finalement, quel est le degré de pénétration de l'Iran dans le paysage politique afghan aujourd'hui? Olivier Weber.
Alors, il y a une politique expansionniste s'est avérée de la part du régime iranien, qu'il n'était plus depuis 1978. On voit très bien sur l'expansion vers l'ouest avec l'Irak, où une partie de l'armée irakienne est aux mains des Pasdaran et du général Soleimani, vers la Syrie bien sûr, et le Liban avec le Hezbollah. Et puis vers l'est, les Iraniens essaient de trouver des alliés. Il y a eu une attaque dernièrement à Farah, donc c'est une ville de l'ouest de l'Afghanistan qui a été, on le sait très bien, diligentée du côté des talibans par les Iraniens qui ont aidé finalement ces alliés qui ne sont pas du tout des alliés naturels. Donc en fait, les Iraniens cherchent aussi à avoir leurs moyens d'expression hégémonique, expansionniste du côté de leur Orient, donc à l'est des frontières iraniennes. C'est important parce qu'évidemment, ça modifie le jeu. Il y avait des alliés traditionnels par les Iraniens qui étaient les Hazaras, donc la minorité ethnique qui représente à peu près, on va dire, 20-25% la population afghane. Et là, ça se déplace vers d'autres alliés qui étaient à un moment aussi des adversaires au potentiel des Iraniens. Il n'y a plus du tout une alliance chiite-chiite, c'est plus chiite et sunnite. Donc, évidemment, il y a cette menace iranienne pour le régime afghan, quel qu'il soit, y compris celui qui résultera des élections présidentielles de l'an prochain, parce que le régime iranien est capable aussi de trouver d'autres alliés pour déstabiliser et pour avoir son mot à dire sur l'ouest de l'Afghanistan.
Jean-Luc Racine, un commentaire, on parlera ensuite du Pakistan.
Bon, l'Iran a été accusé par les Américains, qui ont également accusé les Russes de fournir des armes légères aux talibans. Faut d'abord rappeler que tout l'ouest de l'Afghanistan est de culture persane. Et le Dari, c'est la version locale du persan, c'est une des deux langues officielles de l'Afghanistan. Donc l'Iran est un peu chez lui. La minorité, la grosse minorité des Hazaras est chiite. Et on sait que l'Iran a recruté un certain nombre de mercenaires Hazaras pour aller combattre contre le régime Assad en Syrie. On sait aussi qu'il y a des opérations conjointes entre talibans et Pasdaran iraniens dans l'ouest, contre des éléments de Daesh, puisque même si le bastion de Daesh, Khorasan, c'est plutôt pour une part la province du Nangarhar, voisine du Pakistan, et pour une part les provinces du Nord. En même temps, il faut peut-être pas exagérer non plus l'influence de l'Iran. On a parlé des sanctions américaines. C'est important pour Téhéran vis-à-vis de l'Afghanistan, parce qu'il y a eu l'accord entre Inde, Afghanistan, Iran, pour mettre en œuvre le port de Chabahar, qui est l'entrée maritime en Iran vers l'Afghanistan pour les Indiens, qui n'ont pas un accès terrestre direct via le Pakistan. Donc le jeu est tout à fait complexe. Je ne pense pas que les Iraniens veuillent aller trop loin, mais ils rappellent qu'ils sont concernés au premier chef, et d'ailleurs ils sont mis dans la boucle. Quand les Russes et quand les Chinois organisent quelque chose, les Russes en particulier, les Iraniens sont là aussi. Ce sont des voisins immédiats, donc on ne peut pas se permettre de les ignorer, il n'y a que Washington qui croit pouvoir les ignorer.
Alors la question pakistanaise, vous voulez rajouter quelque chose à
Non, simplement, c'est il y a aussi une surenchère finalement entre les deux groupes extrémistes en Afghanistan et qui déstabilisent le pays, que sont finalement les talibans et Daesh Khorasan. Il y a une surenchère médiatique, il y a une surenchère aussi dans la cruauté des attentats, évidemment, puisque les talibans, quand il y a un attentat revendiqué par Daesh, n'hésitent pas à faire un autre attentat pour dire qu'ils sont aussi importants numériquement et aussi importants géographiquement, répartis dans telle ou telle région. Et donc ça, c'est inquiétant, parce que même s'il y a évidemment une autre attitude par rapport aux élections, les talibans veulent reprendre le pouvoir. C'est évident que Daesh n'a aucune revendication de ce que là. Daesh Khorasan, donc l'appellation de l'État islamique pour l'Afghanistan et les régions limitrophes. En tout cas, cette surenchère va sûrement encore s'exacerber dans les mois qui viennent. Et ça, c'est inquiétant évidemment pour la survie des populations civiles, puisque les civils sont de plus en plus impactés d'après les chiffres que l'on a. Donc même pour et surtout pour 2018, il y a plus de morts civiles que l'an dernier en 2017. Donc là, sont visées sans discrimination aucune toutes les catégories de la population et toutes les ethnies.
20 000 morts, dont beaucoup de civils. Alors je ne sais pas, c'est toujours compliqué à propos de l'Afghanistan de connaître l'exactitude des chiffres. Alors la question pakistanaise, l'administration américaine a accru sa pression sur le gouvernement d'Islamabad pour qu'il limite la liberté des leaders talibans. C'est presque un euphémisme, mais force est de constater que les Américains n'ont pas réussi fondamentalement à changer l'attitude d'Islamabad. C'est un problème sérieux, Jean-Luc Racine. Alors le Pakistan a un nouveau Premier ministre, est-ce que ça peut... un tant soit peu, modifier quelque chose. On sait qu'il n'a pas forcément la main sur la politique étrangère du
pays. Oui, le Premier ministre de longue date est quand même considéré comme étant un proche de l'armée, donc on retombe toujours sur la même question. Qui dirige la politique régionale et la politique étrangère du Pakistan ? En fait, quand Ashraf Ghani est arrivé au pouvoir, succédant à Hamid Karzai, qui a terminé son deuxième mandat dans une critique extrêmement violente à la fois des Américains et des Pakistanais, Rani a essayé de tenter de tendre la main aux Pakistanais, l'idée générale étant, vous avez plus que vos entrées vers les talibans, les dirigeants en exil au Pakistan sont sous votre main, il faut vraiment que vous agissiez. Et puis ça n'a pas vraiment fonctionné, loin de là. En même temps, les Pakistanais ont essayé en 2015 de lancer un processus direct entre les représentants du Haut Conseil pour la paix de Kaboul et les émissaires talibans. C'était dans la ville de Murray, près d'Islamabad, en juillet 2015. Ça semblait prometteur quand les services afghans ont laissé passer l'info qu'en réalité le Mollah Omar, qu'on pensait finalement avoir en quelque sorte donné sa bénédiction à cette première rencontre, était mort depuis 2 ans. Et donc, c'est le numéro 2, en fait, le Mollah Mansour, qui avait piloté ça. Mansour a après durci sa position parce qu'il s'est trouvé sous le feu des critiques des talibans. La question des talibans, c'est aussi jusqu'à quel point il y a diverses factions. On sait que certains d'entre eux ont rejoint Daesh. On sait qu'il y a eu des conflits ouverts, directs, entre talibans et représentants de Daesh. Et derrière tout ça, le Pakistan nous dit et nous répète, bien sûr, on peut parler aux talibans, mais on ne les commande pas. C'est la posture officielle, y compris des services spéciaux pakistanais. Reste à savoir si effectivement les Pakistanais ont intérêt, quelle est la ligne du nouveau gouvernement, à voir que l'enlisement continue ou pas. Et pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de grandes décisions spectaculaires de la part du gouvernement d'Imran Khan. L'enlisement, en quelque sorte, continue. Et la vraie question est de savoir, à supposer même qu'une fraction des talibans s'engage dans un dialogue, je ne dis pas encore d'une négociation, je dis d'un dialogue avec les représentants de Kaboul, est-ce que ça vient du haut commandement et du nouveau chef en titre des talibans à Kandahar, ou bien est-ce que les représentants du bureau politique de Qatar finalement définissent leur propre ligne? Et à ce moment-là, s'ils s'engagent dans un dialogue plus accentué avec Washington, est-ce qu'ils seront suivis par les commandants sur place?
Ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup de questions.
Olivier Weber, alors peut-être justement, j'en profiter pour en rajouter une de questions en guise de conclusion. Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'évolution de la situation à moyen terme?
Je crois qu'il y a quand même une nécessité que d'avoir une présence au moins partielle de conseillers militaires pour aider ce qu'on appelle l'ANA, donc les forces nationales afghanes, donc l'armée afghane et la police, qui ne pourraient pas s'en sortir sinon sans eux. Deuxièmement, il faut souligner quand même que ces forces de sécurité font un travail incroyable sur le terrain, malgré les pressions, les intimidations, les exécutions aussi de proches, etc. Donc les résultats sont probants. Mais encore une fois, il y a, et c'est le troisième point, une sorte d'allongement de l'attente que peut avoir la population afghane. Il y a une lassitude, je le disais tout à l'heure, la quasi-totalité de la population afghane qui a moins de 40 ans, donc n'a connu que la guerre. La population aspire à la paix, à une meilleure économie, à pouvoir envoyer ses enfants à l'école, etc. Actuellement, c'est la peur à Kaboul. Même des médecins disent on a peur de prendre notre deux roues, de prendre un taxi, de prendre le bus pour aller donc sur place. Conférer ce qui s'est passé l'an dernier avec l'attentat meurtrier à l'hôpital militaire de Kaboul où sont surtout soignés des civils et les médecins eux-mêmes, les infirmiers ont été exécutés. Donc il y a une peur. Alors cela résulte en fait aussi de cette capacité des nouveaux pouvoirs. Je parle du pouvoir parlementaire qui va être issu de ces élections, mais aussi peut-être du pouvoir présidentiel de l'an prochain, pour voir ce qu'on peut faire. En même temps, la pauvreté est patente. On a un PNB par habitant de $620 par an. Donc des populations, comme le disait tout à l'heure le représentant des Nations Unies, qui a moins d'un euro par jour. Ça, c'est plus de la moitié de la population. C'est cela qu'il faut modifier. Je crois que ça passe aussi par une meilleure gestion, une meilleure gouvernance et donc une aide des pays occidentaux sur la lutte contre la corruption. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas la théorie, c'est de la pratique sur place. C'est aussi demander des garanties quand on envoie des fonds et des demandes d'allocation pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas des siphonnages en grande partie.
Alors, à ce propos-là, on peut juste rappeler que l'aide de la communauté internationale s'est élevée en 15 ans à $150 milliards. Jean-Luc Racine, très rapidement.
Oui, ça peut paraître dérisoire, mais dans le contexte très sombre qu'on vient de définir, il y a aussi des petites lumières qui s'allument, je pense, à l'intérêt qu'on voit aujourd'hui pour les exploits de l'équipe de foot ou de la nouvelle équipe de cricket afghane. Je pense à cet orchestre de jeunes filles qui s'appelle Zora, qui fait aujourd'hui des tournées internationales. Je pense à la marche pour la paix, qui a mené de la province d'Allemande au sud vers le nord. Donc il y a des petites lumières qui s'allument et c'est là-dessus qu'on peut peut-être terminer.
Merci.
Et puis le rôle des femmes. Les femmes sont très présentes dans la vie politique, aussi dans la vie sociale, dans la vie des ONG locales. C'est très important.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et chercheur Asia Centre. Merci Olivier Weber, écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre. Et merci à Toby Lenzer qui était avec nous dans la première partie de l'émission, qui est le représentant spécial et coordinateur humanitaire pour les Nations Unies en Afghanistan. Géopolitique qui était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée au Brésil pour un entre-deux-tours de l'élection présidentielle.